Je me tourne maintenant vers Noélie Estin. Noélie est venue nous parler d'une coopération territoriale autour de la question du bois. Vous êtes maire de Sainte-Marie-aux-Mines, vous êtes vice-présidente de la communauté de communes du Val d'Argent, non ? Pardon, présidente, pardon Noélie. Dans le cadre d'un appel à projet de l'ADEME, appelé Coopter, la communauté de communes du Val d'Argent a été épaulée par le parc naturel régional des Ballons des Vosges, le laboratoire Athémis, des consultantes en économie de la fonctionnalité et de la coopération, Ecoparc sur le volet de l'animation. Quels sont les défis que vous souhaitiez relever lorsque vous vous êtes lancé dans cette démarche? À quelles problématiques de votre territoire vouliez-vous répondre?
Donc ça se passe au début du mandat précédent. Et il faut savoir que le Val d'Argent, c'est un territoire qui accueillait un peu plus de 20 000 habitants au début du siècle dernier, forte de son industrie textile très florissante, et qui depuis les années 50 a vécu un fort déclin économique, industriel et démographique avec la mondialisation et la délocalisation. On en parlait un peu ce matin. D'autres ont su faire pareil que nous, mais moins cher. Donc, petit à petit, c'est parti. Et donc, à ce moment-là, on s'est posé la question. Alors, on n'utilisait pas le mot ressources, comme le disait M. Pecker ce matin, mais on s'est posé la question de nos atouts en matière de développement, parce qu'on est passé donc d'un peu plus de 20 000 habitants à un petit peu moins de 10 000 aujourd'hui. Et sans viser la nécessité de revenir à ces 20 000 habitants, quand un territoire perd beaucoup de sa population, très vite se pose la question de la pérennité des services publics, des emplois également, mais avant tout, en tant que collectivité, on gère les services publics. Et donc, se pose la question de ce serait bien qu'à minima, on stabilise un peu la démographie. Et donc, on s'est posé la question de nos atouts. Il faut savoir que le Val d'Argent, c'est à peu près 10 000 hectares et 75% sont sous couvert forestier. Il y a encore 5 à 10% d'espaces naturels et agricoles et la partie urbanisée est donc très faible. En 2020, on essuie deux années de crise sur la filière forestière du fait du changement climatique et donc d'années de sécheresse qui font que les plantations d'épicéas qui ont été impulsées par l'homme dans nos forêts ne résistent pas du fait de la sécheresse. Et en plus, le changement climatique est aussi très favorable à un petit insecte qu'on appelle le scolyte et qui vient en fait se propager davantage et mettre en danger davantage ces épicéas déjà fragilisés. Ce qui fait que le cours du bois tombe, et donc la forêt qui, dans le Val d'Argent, est essentiellement communale, qui pouvait être une ressource au sens financier, crée un déséquilibre budgétaire. Et la question que l'on se pose donc, c'est notre cadre de vie, notre lieu d'habitat. Il nous revient d'en assurer, enfin en tout cas de chercher des solutions pour en assurer sa pérennité, et comment, en particulier, trouver des ressources financières pour l'entretenir. Se pose donc la question de comment on valorise l'ensemble des services écosystémiques que produit la forêt, car la forêt, elle fait du bois, mais elle fait aussi la qualité de l'air que l'on respire, la qualité de l'eau que l'on peut boire, elle piège du CO2, c'est un réservoir de biodiversité, etc. En parallèle de cela, sur le territoire du Val d'Argent, on a la partie amont, donc avec la gestion forestière, la partie plantation, la partie exploitation, etc., qui continue de tourner correctement. Et on va avoir à l'autre bout de la chaîne des artisans de toute taille, allant des très petites entreprises avec l'artisan qui travaille tout seul, des entreprises de taille un peu plus importante, jusqu'à des gros industriels qui travaillent le bois. Et on a perdu les maillons intermédiaires. Et donc, c'est poser la question de se dire comment est-ce que pour faire tenir nos forêts dans le temps, dans 10, dans 20, dans 50 ans, 100 ans même, comment est-ce qu'on arrive à refaire du lien pour être sûr qu'il y a le moins de pertes possibles entre l'amont, la production, enfin le moins de pertes de valeur, je veux dire, et l'aval, l'utilisation. Et ça pose aussi la question de la consommation de bois in fine et de quel bois on se sert. Parce que aujourd'hui, les normes de construction évoluent et font que c'est bienvenu d'utiliser du bois dans la charpente de ces habitations ou de ces constructions. Mais de quel bois on parle? Quand on achète du bois dans son habitation, on a le sentiment de faire un geste pour la planète. Mais en fait, de quel bois on parle? Parce que de la même façon qu'on avait le volet alimentaire qui a été évoqué précédemment, sur la partie production de bois, C'est pas la même chose que d'utiliser du bois qui est produit dans, voilà, dans une forêt à proximité de chez soi, selon des cahiers des charges qui sont respectueux, qui vont favoriser la régénération naturelle, etc., que de le faire venir de loin. Et donc, c'est pour essayer de répondre à toutes ces questions que nous avons été heureux de pouvoir être accompagnés par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, être territoire pilote autour de cette question, habiter le bois local et trouver des leviers sur ce sujet.
Merci. On voit que ça touche à des questions techniques, à des questions d'usage, à des questions de métier, enfin, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. À quoi ont servi finalement, la question est un peu mal posée, mais tous ces différents intervenants, le parc, Athémis, Écoparc, sur quel point précis ils sont venus vous aider, aider la collectivité à adresser tout ça?
Alors le premier résultat de ce travail avec tous ces intervenants qui nous ont accompagnés, ça a été de nous permettre à ce que les intervenants se connaissent. Aujourd'hui, ça a fait en sorte que, bah, par exemple, Schmidt Group, qui est implanté sur notre territoire, soit en capacité de travailler avec des petits artisans du territoire, non seulement travailler avec eux, mais en plus d'aller chercher du bois local, du bois des forêts du Val d'Argent ou environnantes. Ce lien-là, sans ce projet de coopération, ça n'aurait jamais vu le jour. Ça a aussi permis de démêler parfois certains points juridiques, parce que quand on est une collectivité, on peut se dire qu'on a la force de la commande publique, mais en fait, c'est pas parce qu'on a la force de la commande publique que derrière, pour des marchés publics, pour le volet juridique, etc., c'est facile de consommer du bois local. Et donc, ça nous a vraiment permis aussi de lever certains verrous sur comment est-ce que moi, en tant que collectivité, je peux imposer l'usage de bois local. Quand je dis bois local, ça n'a pas forcément besoin d'être uniquement Val d'Argent, mais en tout cas, de me dire que ce n'est pas du bois qui vient de l'autre bout de l'autre bout de la planète. Et puis, ça a permis aussi de travailler justement et d'être accompagné sur le volet des services écosystémiques que rend la forêt. Ça, c'est un travail qui se poursuit encore et sur lequel on attend beaucoup. Et le fait que les acteurs se connaissent, ça a abouti à la création d'une association qui s'appelle aujourd'hui Bois d'Argent et qui a développé un label qui s'appelle donc Vivre le bois local en Val d'Argent et qui a vocation à mettre en avant les productions que les artisans locaux peuvent faire à partir de bois local. Et il reste un travail de sensibilisation aujourd'hui et de communication vers le grand public pour qu'il n'y ait pas que la collectivité, mais bien tout un chacun qui ait ce réflexe, de la même façon qu'on va chercher chez celui qui nous fait à manger, des producteurs locaux, et qu'on se dise qu'en achetant du bois, je vais chercher aussi ce qui favorise le territoire.
Merci, ça montre aussi, au travers de ce que vous dites, le temps qui est nécessaire. Voilà, il y a déjà un certain nombre d'années qui se sont passées pour constituer les premières briques de cet écosystème, faire en sorte que quelque chose existe, et c'est pas fini, il y a encore énormément de travail. Merci pour ce témoignage, Noélie.
Très rapidement, ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, on a une logique de filière classique par rapport à une ressource naturelle, avec quand même quelque chose qui est paradoxal, c'est que, alors d'un côté, il faut qu'on exploite la forêt, donc il faut qu'on sorte un certain volume de bois pour générer de la recette, de la recette financière, mais on n'est même pas certain, quand on construit localement, qu'on utilise le bois de notre territoire. C'est-à-dire qu'on a produit un volume dont on ne sait pas où est-ce qu'il est travaillé et où est-ce qu'il est utilisé. Donc en réinterrogeant cette question et cette filière, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il faut sortir des filières. Les filières, elles n'ont pas la réponse. Il faut travailler au-delà des filières, en réinterrogeant les effets de valeur, la valeur du bois, les valeurs du bois, les usages locaux du bois potentiels, en fait, on cherche à réencastrer un ensemble de dimensions de valeur. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'à la fois, ça peut permettre de produire des équipements de qualité avec un bois qui a une certaine valeur intrinsèque, mais ça produit de l'identité locale aussi, et puis ça va produire de la formation. Et donc, toutes ces dimensions de valeur matérielles, immatérielles, territoriales, qui se réencastrent parce qu'on arrive à réagencer les acteurs et à construire des nouvelles conventions entre les acteurs.
Merci, et merci encore pour votre témoignage, Noélie.